êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande. Bonjour à tous. Et émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, nous allons évoquer un écrivain célèbre mais de Dunkerque, mais il n'est pas très connu malheureusement dans sa ville natale de Dunkerque. Il s'agit de Michel de Zoane. Alors Michel de Zoane, il est né le 20 janvier 1654 à Dunkerque. Son père Pierre était un tailleur et il avait une activité plutôt prospère. Michel de Zoane avait deux frères et une sœur. Et nous savons assez peu de choses en vérité sur la jeunesse de cet écrivain qui est Michel de Zoane. Il vit à Dunkerque et à cette époque-là, eh bien, je vous rappelle, Dunkerque fait partie des Pays-Bas espagnols. Ça ne veut pas dire que l'on y parlait espagnol, bien sûr, hein, il est utile ici de bien le préciser, mais on dépendait donc du royaume d'Espagne et Dunkerque, la langue d'usage était le néerlandais. Alors, les gens de Flandre, comme dans l'ensemble des Pays-Bas, savent que, eh bien, ils avaient une, disons, une approche quand même assez importante dans la culture, puisque les gens donc des Pays-Bas savaient en majorité lire et écrire, et surtout compter. Ils avaient une réputation féroce pour le commerce. Ce n'est pas tout à fait par hasard d'ailleurs que la religion réformée connaît ici un franc succès, puisque eh bien, les gens savaient lire, pouvaient lire la Bible, ce n'était pas l'exclusivité du curé du village, et ils n'avaient pas comme seul interlocuteur le seigneur local qui leur donnait le prêt-à-penser. Donc les gens étaient beaucoup plus tournés vers eh bien, la lecture et bien sûr les échanges entre eux. Évidemment, cela ne plaisait guère au roi d'Espagne, hein, qui était lui situé à Madrid, donc bien loin des Pays-Bas espagnols. Il comprenait pas vraiment ce qui se passait, si bien qu'il a mené une politique féroce de répression. Et évidemment, les gens les plus aisés, eh bien, ont quitté la Flandre pour rejoindre les Provinces Unies au nord, l'Angleterre. Les États-Unis aussi et une partie est partie d'ailleurs en Afrique du Sud, puisque là-bas les grands Pays-Bas avaient plusieurs comptoirs de commerce et donc ils sont partis bien sûr faire leurs affaires là-bas pour éviter la répression qui était menée donc par les pouvoirs espagnols de l'époque.
Hayde, où vous interprétez Experior, c'est en fait Jonas et Peter Demeester. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo ce matin sur Radio Plus 104.3.
Et nous évoquons donc un écrivain célèbre, Michel Dezoine, célèbre en dehors des murs de sa ville natale de Dunkerque. Et donc, à l'époque où vivait donc Michel Dezoine, eh bien, la religion réformée avait beaucoup de succès en terre de Flandre. Malheureusement, ceux qui se convertissaient à la nouvelle religion étaient pourchassés et de façon assez féroce, si bien que beaucoup se sont enfuis, emmenant bien sûr leur richesse, leur savoir. Et c'est ainsi que les villes de Flandre, qui étaient jusqu'alors très prospères, vont connaître une récession économique importante, comme le port d'Anvers, la ville de Gand, au profit, eh bien, justement, des villes voisines, qui sont aux provinces unies comme les villes d'Amsterdam et de Rotterdam. Néanmoins, la famille de Zoine va rester à Dunkerque car elle reste fidèle à son pays. Et d'ailleurs, Michel de Zoine plus tard va écrire un poème que nous allons écouter ici, une ode justement à ce pays de Hollande qu'il aimait tant et qui regrette de ne plus faire partie. Alors, écoutons ce poème.
Au sieur Van Hel, qui m'est inconnu au sujet de sa plainte sur mon départ de Hollande. Que vous plaignez-vous, Van Hel? Que faites-vous gémir la Hollande? Parce qu'un cygne de Svan, un cygne sauvage, a quitté ses rivages? De Svan, avec plus de raison, s'abandonne au chagrin de ne plus pouvoir jouir d'un aussi doux séjour. Ô Hollande, pays de paix, où vit la liberté? Pourquoi la cherchais-je en vain chez les voisins, où le français et le castillan déchirent le repos et la paix, où la haute bourgeoisie tremble sous des seigneurs étrangers? Ô cher pays, si j'étais demeuré dans tes frontières, comme joyeusement ma voix se serait sentie portée aux champs, aussi bien sur les bords de la Rotteur que sur ceux de la Meuse. Maintenant, j'habite une région que la joie a quittée. Ma nourriture, c'est l'âpre bile. Mon champ, hélas, hélas, où signe errant me suis-je donc blotti?
Donc, comme ce poème le révèle, il regrette évidemment que Dunkerque ne fasse plus partie des grands Pays-Bas. Quand Dunkerque passe au royaume de France, eh bien Michel Dezoine, il a alors 8-9 ans. Il suit des cours chez les jésuites et l'éducation donc donnée par les jésuites est de bonne réputation. Je vous rappelle que Michel Dezoine fait partie donc plutôt de la bourgeoisie dunkerquoise. À Dunkerque, à l'époque, on parle néerlandais. Ça ne les empêche pas naturellement d'apprendre bien sûr le latin et le français. Le roi de France, Louis XIV, bien sûr, veut séduire les bourgeois de Flandre et leur accorde quelques privilèges pour les amadouer et surtout aussi la hiérarchie catholique sur laquelle il s'appuie, puisque eh bien le roi très catholique Louis XIV n'aime guère non aussi comme les Espagnols d'ailleurs, les gens qui sont séduits par la religion réformée, le protestantisme. Michel Dezoine, eh bien, lui, poursuit donc ses études. Il va devenir chirurgien. Après, il va suivre à peu près 6 années de formation. Il va aussi, alors c'est chose curieuse, exercer le métier de commerçant quincailler. Alors, ça peut paraître aujourd'hui un peu bizarre que l'on soit à la fois chirurgien et puis commerçant quincailler, mais bon, à l'époque, c'était ainsi. Michel Dezoine, eh bien, va aussi vivre un épisode qui n'est pas commune, c'est celle de changer de 3 fois de nationalité en une seule journée, puisque Dunkerque, eh bien, est espagnol le matin, passe à midi française pour être le soir anglais. Alors, quand on parle de nationalité, évidemment, c'est par rapport à la référence d'aujourd'hui, car à l'époque, on ne parlait pas de nationalité, mais plutôt d'être, bien sûr, au service d'eux, être le sujet du roi qui, bien sûr, tout simplement dirigeait la province. Et donc, c'est ainsi que le soir, Michel de Zouane était donc le sujet de Sa Majesté Charles II d'Angleterre.
À l'écoute de Radio Plus sur 104.3, vous venez d'entendre un morceau intitulé Branle Pinaguet, un morceau de musique médiévale du XVIe siècle.
Et donc, nous parlons lors de cette émission de la vie de Michel de Zouane, donc un écrivain en langue néerlandaise, natif de Dunkerque. Et donc, Dunkerque, à ce moment-là, appartient donc au roi d'Angleterre, Charles II. Et bien, Charles II, il a quelques problèmes de trésorerie, si bien que la France, bien sûr, qui convoite toujours ce port de Dunkerque, Charles II va vendre Dunkerque au roi de France. Michel de Zouane, même si le roi Louis XIV cherche à séduire la bourgeoisie en octroyant quelques largesses, néanmoins, petit à petit, il va, le roi Louis XIV, imposer, bien sûr, pour l'administration et les actes juridiques, le français. Et là, Michel de Zouane, bien sûr, va vivre très très mal cette imposition et cette exclusion, petit à petit, de sa langue natale, le néerlandais. Il maîtrise néanmoins très bien la langue française puisqu'il va traduire l'œuvre de Corneille, le Cid, en néerlandais. Il est parfaitement donc trilingue puisqu'il maîtrise le latin, le français et bien sûr le néerlandais. Alors évidemment, il regrette que Dunkerque ne fasse plus partie des Pays-Bas et lui, il va manifester son attachement en mettant en avant ses œuvres qu'il va écrire exclusivement en néerlandais. Il exerce certes une profession, comme on disait tout à l'heure, de chirurgien, de commerçant. Il s'investit aussi dans la ville de Dunkerque, puisqu'il rentre dans le corps de la magistrature. C'est une notoriété locale évidente et qui dépasse largement, bien sûr, sa notoriété, les remparts de la ville de Dunkerque. Il participe activement à une chambre de rhétorique qui sont très nombreuses à l'époque. C'est, disons, une activité importante dans l'ensemble des Pays-Bas, mais aussi une grande partie de l'Allemagne. Ces chambres de rhétorique rassemblent des gens de sensibilité commune. Ils sont souvent avec un but artistique, musical, poétique, théâtral. Mais aussi, ça peut être plus tourné sur des activités professionnelles, un petit peu corporatistes, ou voire même simplement par quartier. C'est un peu l'ancêtre des associations de quartier qu'on peut connaître aujourd'hui. Ces chambres de rhétorique, bien sûr, servent beaucoup aux échanges, à la diffusion de l'information. Hein. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, il n'y avait pas de télévision ni Internet. Et donc, les seuls moyens, eh bien, c'était de se rassembler autour d'une table dans un estaminet, à fumer la pipe et puis boire une bonne bière, avec modération, bien sûr. Et donc, on échangeait les informations et aussi, eh bien, dans ces chambres de rhétorique, eh bien, tout simplement, on faisait des concours, puisqu'on composait des poèmes, on composait des pièces de théâtre. Et chaque année, eh bien, c'était celui qui avait la plus belle œuvre, bien sûr, qui était récompensé. Et les chambres de rhétorique se faisaient même des concours entre elles. Et Michel Dezoine se rendait régulièrement à Bruges, à Furnes, à Ypres, pour rencontrer, bien sûr, d'autres écrivains, d'autres artistes et ainsi se frotter en quelque sorte, se frotter leur talent. Michel Dezoine épouse le 24 juillet 1678 Maria Damas, c'est la fille d'un échevin dunkerquois, preuve que donc Michel Dezoine est quand même plutôt dans la haute société. Ils ont eu ensemble 6 enfants. Malheureusement, Maria Damas va décéder en 1697. Ça sera un immense chagrin pour Michel Dezoine. Néanmoins, elle ne va pas rester veuve très longtemps, puisqu'un an à peu près, ensuite, il va se remarier en juin 1698 et il aura avec cette dame un 7e enfant. C'est un mariage, par contre, qui lui sera beaucoup moins heureux.
le groupe Hopland vous interprétait le branle des chevaux, une danse médiévale flamande. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous évoquons donc un célèbre Dunkerquois, Michel de Zwijn, donc écrivain de langue néerlandaise. Il termine d'ailleurs sa première œuvre en 1686, Mash Wording. C'est un chef-d'œuvre qui est riche en sensibilité et qui connaît un certain succès dans, parmi, bien sûr, les écrivains néerlandais et le monde néerlandais dans son ensemble. Et c'est un homme qui est particulièrement rigoureux et il ne manque pas de critiques, en particulier sur certaines personnes qui font partie, bien sûr, de ses chambres de rhétorique. Il écrit ainsi, par exemple, « Dites, que trouve-t-on dans toutes ces écoles de rhétorique? Que présomption et vanité! L'incapable à peine d'écrire deux vers veut être estimé, homme illustre. L'autre se croit digne d'enfourcher Pégase parce que parfois, plus que d'autres, il ose mentir. Celui-ci se considère comme un poète vif et pénétrant parce qu'il sait le nom de Phébus et des muses. Il y en a qui, dès qu'ils sont capables de faire rimer deux mots, entendent être considérés comme des soleils. L'art, si petit et si grêle soit-il, enfile la poitrine de chacun et fait que l'artiste se rengorge. N'est-il pas ridicule que des jeunes poètes osent se comparer à Ovide et à Marot, et qu'un rimailleur de première culotte estime ses écrits supérieurs aux livres d'Homère? » Voilà, donc Michel de Zwijn, c'est un personnage qui va vers l'excellence, comme on dit aujourd'hui, qui est très exigeant, qui est une école de rigueur, bon, peut-être aussi l'influence de son métier de chirurgien, qui naturellement ne permet guère de fantaisie. Et donc Michel de Zwijn, bien sûr, est très exigeant. Il écrit néanmoins une pièce qui n'hésite pas à avoir aussi de la farce. C'est un homme aussi qui savait rire et qui savait s'amuser. Il connaissait les limites des hommes. Et Michel de Zwijn donc s'intéresse au théâtre et il écrit une farce en 1688, La botte couronnée. Alors, c'est un sujet assez savoureux, dont un savetier bruxellois qui a une fille qu'il veut marier à son compagnon. Mais voilà, la fille n'en veut pas. Elle estime un autre jeune homme qui, lui, par contre, n'a pas beaucoup d'argent. Mais voilà, l'amour a ses raisons. Et bien sûr, je ne peux que vous inviter à découvrir cette pièce de théâtre, La botte couronnée, donc de Michel de Zwijn. Thank you.
traditionnelle de Flandre, interprétée à nouveau par Hopland, une suite de Flandre, avec des morceaux en fait collectés par Edmond de Coussemaker. Vous êtes à l'écoute de L'Heure Flamande, émission préparée par Michel et Marie-Jo sur Radio Plus 104.3.
Vous pouvez aussi écouter sur le site internet de la radio www.radioplus.fr. Et donc aujourd'hui, nous évoquons Michel de Zoen, donc un écrivain de langue néerlandaise né à Dunkerque. Michel de Zoen, donc chirurgien de son état, mais aussi commerçant quincaillier, et qui a donc voulu rester à Dunkerque malgré que son regret que Dunkerque soit devenu français et que soit surtout détaché des grands Pays-Bas auxquels il était très très attaché. Et c'est pourquoi d'ailleurs il a continué à écrire toutes ses œuvres en langue néerlandaise. C'était un homme assez engagé, il s'intéresse bien sûr à la vie publique. Il fait partie donc des notables de la ville de Dunkerque, il est conseiller à la ville de Dunkerque. Pour lui, c'est une façon aussi de résister aux autorités françaises qui veulent de plus en plus bien sûr imposer non seulement la langue mais les règles bien sûr du royaume de France. Et évidemment, il n'est pas le seul à jouer cette résistance, si bien que les autorités de Louis XIV se rendant compte de cette forme de résistance, eh bien, vont purement et simplement supprimer ce corps de conseillers. Comme ça, il n'y avait plus de contestation possible au sein des contestations municipales. Alors évidemment, cette suppression va profondément dégoûter notre écrivain et il va désormais abandonner, en tout cas, une vie publique, une vie plus politique. On dit aussi, c'est un contemporain, c'est le célèbre corsaire qui est l'aîné de 4 ans de Michel de Zoen, donc je parle bien sûr de Jean Bart. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments, savoir quels étaient, est-ce qu'ils se sont rencontrés, combien de fois. Toujours est-il, c'est que selon certains historiens, les relations étaient plutôt tendues entre les deux hommes, puisque Michel de Zoen n'aurait pas du tout apprécié que Jean Bart, tout simplement, eh bien, ait abandonné les grands Pays-Bas pour servir le royaume de France. Jean Bart ayant fait ses classes avec l'amiral Michel de Ruyter, des Pays-Bas. C'est grâce à ce amiral particulièrement habile en mer, qui était très réputé et aussi très craint par les ennemis, que ce soit les Anglais comme les Espagnols. Jean Bart a abandonné, il a même fait la guerre à son ancien maître, et Michel de Zoen n'aurait pas beaucoup apprécié cette attitude de trahison, osons presque le dire. Michel de Zoen, c'était aussi un homme très attaché à la religion, et c'était un homme très sensible. Et donc, évidemment, il va consacrer des œuvres, en particulier un ouvrage qui va consacrer à la vie et à la mort de Jésus-Christ en 1694.
J'habite dans un trou perdu, près des nuages. J'y ai déposé mes bagages et j'ai du plaisir à y vivre, car j'y respire un air parfumé de légende folle et du vent de la mer du Nord. J'aime écouter les lourds chevaux au pas tranquille me parler des labours d'antan, de cette terre calme et fertile, chant des batailles ou bruit de bottes en tout genre. C'est doux Sillon, oui j'habite en Flandre. Je suis logé là-haut, tout près du ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis dichtbij, bij de hemel. Beaucoup d'aventuriers reviennent au port d'attache pour aborder l'ultime voyage, avec autour de les images pieuses de l'enfance. Laissons les préaux de l'école. J'habite en Flandre, je suis logé là-haut, tout près du ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mij thuis, hierbij, bij de hemel. Je suis de retour au pays, bien avant l'âge. Mon aventure continue ici. Il y a de l'or qui tombe en douce sur cette terre. Qu'on soit d'ailleurs ou bien de souche, ce monde d'amour, c'est l'Oussillon. Oui, j'habite en Flandre, je suis logé là-haut, tout près du ciel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis hierbij, bij de hemel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis hierbij, bij de hemel. Ja, ik woon in Vlaanderen, boven, ik heb mijn thuis dichtbij, bij de hemel.
William Schott, vous interprétez Trou perdu pour nous chanter en fait son amour de la Flandre. D'ailleurs, il n'hésite pas à se surnommer le Grillon des Flandres. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'Heure Flamande sur Radio Plus 104.3.
Et aujourd'hui, donc, nous évoquons l'écrivain dunkerquois Michel de Zouane. Michel de Zouane, eh bien, est un homme très religieux, et il faut aussi resituer tout ça dans l'esprit de l'époque. Hein. Aujourd'hui, l'affaire de religion est affaire privée, mais à l'époque, tout était rythmé selon la religion, le rythme de travail, la vie. La religion était vraiment au cœur de la vie de chacun et faisait partie de la vie publique. Et Michel de Zouane, eh bien, c'est un homme chrétien, plus catholique. Hein, il n'a pas été séduit par le protestantisme. Et néanmoins, donc, Michel de Zouane a écrit, donc, en 1694, un ouvrage très important, et très épais d'ailleurs, La vie et la mort de Jésus-Christ. C'est une œuvre assez imposante, donc, et puis qui exprime beaucoup sa grande sensibilité, son sens précis de l'observation. Et nous allons ici écouter eh bien ce qu'il disait, donc, Michel de Zouane, le religieux Michel de Zouane, qui n'était pas non plus aussi quelqu'un qui savait aussi rire et s'amuser. Mais écoutons ce texte.
Ô âme, quand on m'étendra...
Alors, là, c'est Excusez-moi. Le poème qu'on va lire tout
oui.
à l'heure.
Oui. Petite erreur. Néerlandaise, la religion Michel de Zouane l'est encore par un autre aspect. On ne peut nier qu'elle ne soit austère. La vie chrétienne, c'est soupirer, veiller, lutter. La vie chrétienne, c'est se mortifier, jeûner, souffrir. Être sans cesse sur la défensive, sans cesse sur le qui-vive, ne jamais se reposer, être armé jour et nuit. Pour maintenir l'âme dans le droit chemin, De Swann brandit, comme jamais ne surent le faire les prédicateurs flamands pourtant experts en l'art, la menace du jugement de Dieu. Qu'est-ce que la vie ? Un rien. Fussiez-vous couvert d'or ou de cramoisi, l'amour lui-même eût-il fleuri vos jours rebondis avec des dehors d'albâtre et de corail ? La nature vous eût-elle prodigué tout son art pour exposer en vous toutes ses merveilles ? Songez qu'une seule nuit peut abattre tout cela et gâter en un clin d'œil ce que vous estimez tant.
Donc c'est rappeler la condition humaine et donc Michel De Swann est bien évidemment très sensible donc à la vie religieuse. Hein. Il écrivait qu'il fallait plaire à l'oreille et édifier le cœur sacré de Jésus était vraiment sa référence. Et donc c'est un homme qui bien sûr ne vit pas de façon en dehors du monde, tel un ermite. Il vit avec ce monde et d'ailleurs il était très engagé, on l'a dit tout à l'heure, dans la vie publique. Il échange par les chambres de rhétorique et on imagine bien que les chambres de rhétorique c'était pas non plus des réunions d'austérité. On devait bien sûr lever le coude, boire une bonne chope, fumer la pipe à l'époque puisque c'était souvent l'art. D'ailleurs, aux Pays-Bas, on appelle ça les chambres brunes, tellement il y avait des vapeurs de tabac qui finissaient par colorer d'ailleurs les murs de ces estaminets. Donc c'est un chrétien très engagé. Donc encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, à l'époque, eh bien évidemment, la religion faisait partie de la vie de chaque jour. Ça faisait partie de la vie publique. Et ici, on va écouter un poème qui, justement, évoque bien cette sensibilité.
Ô âme, quand on m'étendra sur mon lit de mort, pourrez-vous dire avec Jésus, tout est accompli ? Pourrez-vous en conscience soutenir devant Dieu, Seigneur, j'ai satisfait à ce dont vous m'avez chargé sur terre ? Quand je fixe les yeux sur vos travaux décousus, je ne peux en aucun noter le contentement de Dieu. Car loin d'y voir sa volonté accomplie, vous voulez que tout serve votre amour propre. Las, quand la pâle mort de sa trompette de cuivre sonnera à vos oreilles, tout est accompli, ô homme. Et quand elle hurlera, va-t'en, tu en as terminé, tu dois dans l'heure te présenter devant le tribunal de Dieu. Comme vous allez alors, âme stupide, frémir et trembler, en voyant comment vous avez négligé de vivre cela sa volonté, en ne voyant sur la fin de votre vie aucun fruit rassemblé d'une si riche moisson par vous gaspillée sur terre. Donc c'est un poème intitulé « Tout est accompli » qui a été traduit par Jacques Fermeau.
Voilà, donc bien sûr, les poèmes, alors quand on parle, Michel De Swann a écrit exclusivement en néerlandais, évidemment on nous a fait des lectures de traduction, alors on dit traduire c'est toujours un petit peu trahir évidemment, puisque les rythmes, la poésie, la musicalité de ces poèmes en langue néerlandaise, ce n'est pas tout à fait la même chose que bien sûr en langue française, mais c'était pour vous faire découvrir donc cet auteur dunkerquois qui malheureusement n'est pas très connu dans notre région. Évidemment, vous allez me dire parce qu'il a écrit en néerlandais, mais on peut aussi regretter que on n'enseigne pas beaucoup plus cette langue qui est la langue de notre voisin immédiat. Et donc il y a aussi là une découverte énorme de littérature à faire, découvrir donc Michel De Swann. On a essayé au moins à travers cette émission qui touche déjà bientôt à la fin de faire découvrir cet auteur dunkerquois, donc Michel De Swann. Alors Michel De Swann, comme on disait tout à l'heure, a perdu sa première épouse en 1697. Il a été profondément marqué. Néanmoins, un an plus tard, il épouse une d'une autre dame qui malheureusement ne va pas lui apporter tout le bonheur que lui a apporté sa première épouse. C'est plutôt une dame qui va être plutôt dépensière et Michel Dezouane va en être profondément affecté. Il tombe malade et sa fortune a fondu terriblement. Il meurt le 3 mai 1707 à Dunkerque. Et donc, Michel Dezouane, aujourd'hui, on peut encore trouver son nom à travers le nom d'une rue qui se trouve tout près de l'hôtel de ville de Dunkerque, aussi dans l'autre village à Tétéguem. Donc, mais c'est malheureusement un personnage qui mérite, qui n'est pas connu assez et qui mérite bien sûr largement d'être étudié et donc diffusé bien sûr la langue néerlandaise. Alors je précise que cette émission eh bien, a pu être faite grâce au travail de plusieurs historiens que je tiens donc ici à citer par leur travail. Donc il y avait Robert Nott, l'abbé Cyril Mouillart, il y avait aussi l'abbé Marcel Janssen. Il y a un ouvrage qui existe que vous pouvez bien sûr vous procurer pour lire Michel Dezouane, la vie et l'œuvre de Michel Dezouane, donc qui était né en 1654 et décédé à Dunkerque en 1707. Voilà, et bien l'émission se termine. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de Radio Plus, bien entendu.
Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en barre oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als slijsteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft of dampende het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.